Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Il a marché pendant une heure sans fatigue. Et il voit une voiture arriver à lui. Il fait signe pour qu'elle s'arrête. Le conducteur a arrêté sa voiture. Il descend la vitre. C'est un gros homme à cheveux blancs dans les 60 ans, sympathique. Il lui dit « Qu'est-ce que vous faites en pleine nuit? Vous courriez ?» François lui dit « Non, mais il m'est arrivé un incident. Je veux rentrer chez moi. » « Vous habitez où ?» François lui répond « À Versailles. » Bien monté, c'est sur ma route. Il ouvre la portière qui est à côté du chauffeur. François entre. Et le chauffeur met sa voiture en marche. L'homme lui demande « Qu'est-ce qui vous est arrivé comme accident ?» François lui répond « Un camion m'a accroché et fait cogner contre un mur. » L'homme lui dit « Vous n'avez rien eu ?» Vénard, François lui dit « J'en suis tout surpris. » « Ça fait longtemps que vous avez eu cet accident ?»«
Peut-être cet après-midi. »
L'homme lui dit « Et vous êtes toujours sur les routes cette nuit ?»
François lui dit « Je me suis réveillé il y a peu de temps. »
Et vous avez réussi à vous sortir de la voiture tout seul ?» François lui dit
« Je n'en sais rien. J'ai dû perdre connaissance un moment. Je me suis réveillé dans un drôle d'endroit, plein de mannequins bizarres. »
Et qui vous a amené là-bas ?
Aucune idée.
L'homme lui dit, vous semblez en pleine forme, surprenant, drôle de tenue. continue la route. Arrivé à Versailles, François lui indique où il habite. C'est dans une petite rue, il n'y a que des petites maisons. La voiture va s'arrêter devant le portail d'une de ces maisons. La maison est au fond d'un petit jardin. Elle est moderne, toute blanche, d'un étage, avec de grandes baies vitrées.
Merci, de rien.
Et François sort de voiture. Et la voiture démarre. François cherche dans ses poches ses clés. Il ne les trouve pas. Ses poches sont vides.
Merde!
Il se penche et voit qu'il est habillé d'une façon bizarre. Un t-shirt violet et des baskets. Lui, qui n'a jamais aimé le débrailler, se dit
« Mais qu'est-ce que je fais habillé comme ça ?» C'est pas à moi.
Il réfléchit et se dit,
ce doit être le camionneur qui a dû me changer mes vêtements, qui devaient être déchirés et sales.
Il soupire et dit,
bon.
Il appuie sur l'interphone. Attends, voit au premier étage de la maison une lampe s'éclairer, puis au rez-de-chaussée.
Oui,
c'est la voix de sa femme. Il lui dit,
c'est moi.
Elle lui dit,
qui?
Il lui dit,
c'est moi.
Elle lui dit,
qui?
Il lui dit,
ne fais pas l'idiote. C'est moi, François.
Elle lui dit,
je n'aime pas ces plaisanteries.
Je ne plaisante pas. J'ai eu un accident et je veux rentrer. J'ai oublié mes clés.
Il sonne encore une fois. Rien. Encore. Encore. Rien. Une voix fait.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est une voix d'homme.
François lui dit. Je veux rentrer chez moi.
Vous vous trompez de maison. Vous êtes ivre.
François lui dit. Non, absolument pas. Je veux rentrer chez moi. Rendez-moi ma femme.
Non.
Mais c'est ma femme.
Tu veux moi mon poing sur la gueule? Va-t'en ou j'appelle la police.
François n'en peut plus. Il est furieux.
Tape, cogne.
Ça fait un bruit d'enfer dans la nuit. Puis, il s'assoit à terre, le dos au portail. Il se demande ce que ça veut dire tout ça. Et puis,
C'est triste de voir que ça fait sa femme ne vous reconnaît pas.
Puis, il entend une sirène de voiture de police. La voiture s'est arrêtée devant lui. Deux policiers, grands forts, vont à lui. Il se lève. Un des policiers lui demande
« Que se passe-t-il ici ?» François lui dit « Ma femme refuse de faire entrer chez moi. Elle est avec quelqu'un. » Le policier lui demande « Vous avez votre carte ?» François lui dit « J'ai eu un accident et j'ai plus rien sur moi. » Le policier lui dit « Bien, nous allons voir. »
Il sonne à l'interphone.
Oui, police nationale, ouvrez-nous s'il vous plaît. Le portail s'ouvre. Les deux policiers entourent François et lui disent « Nous en parlons à votre femme, venez. » François les suit. La porte de la maison s'ouvre. C'est la femme de François, grande, mince, blonde, dans les 35 ans. Très jolie. Elle a un peignoir rose. Le policier lui dit « Cet homme dit est votre mari. » Elle ouvre ses épaules et lui dit « Non, monsieur le policier. » François furieux lui dit « Mais elle ment, c'est ma femme, je la reconnais. » Elle dit au policier « Cet homme est fou, mon mari est mort il y a de cela 6 mois d'un accident de voiture. » François lui dit « Mais non, c'est aujourd'hui que j'ai eu l'accident. » Le policier lui dit « Cessons cette discussion. Madame, avez-vous des preuves de ce que vous dites ?» Elle lui dit « Mais oui, j'ai le papier de décès. Entrez. » Ils entrent. Elle a fermé la porte derrière eux. Dans le couloir se trouve un homme grand, fort, cheveux grisonnants, robe de chambre rouge. Il a dans les 50 ans. François demande « Qui est cet homme ?» Elle lui dit « C'est Armand, mon nouvel ami, avec qui je vis. » François lui dit « Et mes enfants ?» Elle lui dit « Ils sont là, ils dorment. » Il lui dit « Va les chercher. » Elle lui répond « Sûrement pas, je vais chercher l'avis de décès de mon mari. » Et elle va rentrer dans une pièce. François se demande s'il ne vit pas un cauchemar. Elle revient. Étant un policier, un papier et une photo. Elle leur dit « Tenez, vous voyez bien que mon mari est mort. » Les policiers lisent l'avis de décès et la photo. Le policier dit à François « Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Il lui montre la photo et lui dit « Tu vois bien que ce n'est pas toi. » François lui dit « Mais si, c'est moi. » Le policier lui dit « Il doit être complètement dérangé. On devrait l'amener avec nous. » Et disent à François « Venez, nous allons vous mener. Allez, allez. » François furieux dit « Non, ici je suis chez moi. » Le policier lui dit « Allons, venez, venez. » Les deux policiers l'entourent et le font sortir de la maison. Une fois dehors, ils le mènent vers la voiture. François dit « Je ne sais plus qui je suis. » Et d'un geste brusque, il tend les bras. Chacun des deux agents reçoit un coup à la tête. Tellement fort que ça les fait tomber à terre. Renversé. Vite, François entre dans la voiture et la met en route. La carte était restée sur le rétroviseur. Elle file la voiture en laissant les deux policiers assommés. Il file avec une voiture de police. La radio s'est mise en route pour donner les messages. Il roule droit devant lui, ne sachant où il va. Il est furieux, mais en même temps apeuré. Il file. Se retrouve dans les rues de Paris. C'est encore nuit et les rues sont vides, épuisées, malgré ce qu'il est. Il va arrêter sa voiture dans une rue déserte, une petite rue populaire qui se trouve derrière le lycée Henri IV. Il sort de voiture. Et marche. Il ne sait quoi faire. Où aller. C'est soit sur les marches de l'entrée de la piscine. Et réfléchit. Un certificat qui dit que j'étais décédé à la police. C'est que je suis mort. Mort il y a 6 mois de ça. Ce n'est pas possible. Puisque j'ai eu cet accident il y a quelques heures. À moins que j'ai perdu la mémoire. Qu'est-ce que je faisais dans cet entrepôt? Peut-être m'y a-t-on mis à moitié mort et oublié? Je me serais réveillé 6 mois plus tard. Peut-être, mais non. Je me souviens bien. Et puis... Si je ne suis plus. Et puis je ne sais pas. Et la photo de moi. La police ne m'a pas reconnu. Tout ça, c'est un coup monté. Des faux papiers. Une fausse photo de moi. C'est ma femme qui a tout. Une imaginer, parce qu'elle veut vivre avec cet homme.
Oui, c'est ça. Oui. J'irai à la police. Je leur dirai de faire une vraie enquête. Ils les mettront en prison, ma femme et cet homme. Je vivrai avec mes enfants. Elle verra cette garce.
Elle essaye de se détendre et de dormir. Il réussit à s'endormir. Un sommeil noir. Il est réveillé par le bruit de la rue. Il ouvre les yeux et voit les gens aller venir autour de lui. Se lève, a ni faim ni soif, se met en marche au hasard. En passant devant un magasin de meubles, il voit dans la glace une armoire à glace de 1930. Il voit un homme, grand, fort dans les 30 ans, blond, très sympathique, en t-shirt et pantalon violet. Il se dit, il ne comprend pas. Tiens. Il regarde à côté de lui, ne voit personne. Lève le bras, la glace le montre lever le bras. La jambe, la même chose. Il regarde ses vêtements. Et ce sont les mêmes que ceux de la glace.
Alors, c'est moi? Mais cette tête de con, ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça.
Ne comprends pas.
Peut-être que la glace déforme.
Et il veut en avoir le connerit. Il veut rentrer dans le magasin.
Une femme, grande, maigre, châtain, dans les 40 ans, va à lui.
Monsieur, vous désirez?
Il lui dit, j'aimerais savoir si la glace qui est dans la vitrine, la glace de l'armoire, là, déforme le visage.
Elle lui dit, pas du tout, monsieur. Elle n'a aucun défaut. Venez voir.
Et elle le mène devant la glace.
Il voit qu'elle la représente telle qu'elle. Il lui dit,
oui, alors moi, je suis comme ça.
Elle lui sourit et lui dit, ma foi, oui monsieur, vous êtes très bien.
Il lui dit, ce n'est pas moi.
Elle lui dit, des fois on ne se reconnaît pas, parce que l'on ne se voit jamais vraiment.
Il se regarde et dit, merci madame.
À votre service, monsieur.
Et il sort du magasin.
Il ne sait quoi penser. Il se dit,
peut-être ont-ils raison? Je suis fou?
Il marche un peu.
Mais non, je ne suis pas fou. Je suis moi. Mais qu'est-ce que je fais dans ce corps de con?
Tout à coup, il se souvient des autres dans le garage.
Ils sont comme moi. Ils sont tous pareils. C'est pas possible. Non, pas possible. Il y a quelque chose qui cloche.
Il réfléchit, il se dit.
Ou je rêve, on m'a transformé comme les autres. Peut-être ma femme, cette garce. Oui, ce doit être elle. Il faut que je sache ce que je vais devenir. Je veux reprendre mon identité. Je veux retourner vers chez elle.
Il réfléchit. Et se dit.
Si elle me voit comme ça, elle va appeler la police. Pour me faire enfermer. Je dois me transformer. Mais comment? J'ai pas d'argent, de cartes. Je dois avoir de nouveaux vêtements et me faire une nouvelle tête.
Marche dans les rues et regarde timidement les poubelles pour voir s'il n'y aurait pas de vieux vêtements. Il a honte et n'ose pas fouiller. Et puis les vêtements, c'est une denrée précieuse qu'on ne jette plus aussi facilement. Comment faire ? Il continue à marcher. Il se trouve sur les quais de Seine, voit Notre-Dame, il se dit
« C'est bizarre, j'ai ni faim ni soif, ça doit être l'énervement. »
Et la journée passe ainsi. Le soir, il traîne dans les rues, bien décidé à faire quelque chose pour avoir des vêtements et changer de physionomie. Un homme passe, grand, est habillé d'un costume gris, propre, et doit avoir 25 ans. François décide de le suivre. Sait jamais. L'homme marche d'un bon pas, mais ne semble pas savoir qu'il est suivi. François le suit de loin. Il y a peu de passants. Faut qu'il fasse attention. Dans la foule, c'est plus facile de suivre une personne. L'homme entre dans l'allée d'un vieil immeuble, modeste mais propre. François, vite, traverse le trottoir de la porte, n'a pas de fermeture automatique, c'est rare, et il entre dans l'allée.
Petite allée tranquille, pas très large. L'homme est aux boîtes aux lettres.
trie son courrier. François attend, comme s'il allait aussi prendre son courrier. L'homme ne fait pas attention à lui. Il ouvre une lettre. Et tout en marchant, il monte les escaliers. François le suit. L'homme monte jusqu'au premier. Il ouvre l'appartement de gauche. Une fois que l'appartement de la porte est ouverte, François, derrière lui, d'un geste rapide, il a la main au front. Il le pousse la tête la première dans l'appartement. L'homme tombe à terre. François entre et ferme la porte. L'homme essaye de se relever. François lui met un pied sur le ventre. Et lui dit, je m'excuse, mais il le faut. Il se couche sur le corps de l'homme. Et lui met la main au cou. L'homme essaye, c'est de se défendre. Mais il a le poids, le corps de François sur lui. François qui commence à le serrer le cou. C'est la première fois qu'il le fait, mais c'est simple à faire. Il suffit de serrer, serrer, jusqu'à ce que l'on sente se ramollir l'autre. Là, il serre, c'est coriace, c'est costaud un coup. Il est en sueur, il serre. Enfin, il serre, et quelque chose, des petits craquements, et puis le visage de l'homme qui a de la peine à respirer, qui tire la langue. Ses yeux se fixent. C'est fini? Encore un petit coup? Et la chose est faite. Ouf! François se relève en sueur. Il regarde où il est. C'est un couloir. Il y a trois portes. En plus de celle de l'appartement. Il ouvre une porte, c'est un sort d'OVC. Il se remet un peu. Une autre, c'est la chambre. Une autre, c'est séjour. Il va aller dans la chambre. Il est un peu étourdi après ce qu'il a fait. Il reprend ses esprits. Et dans la chambre, il va ouvrir l'armoire. Et là, il voit des vêtements, des costumes, des piles de chemises, maillots de corps, sous-vêtements. Alors, il se déshabille. Et essaye des costumes. Et puis, il en choisit un. C'est un marine qui lui va bien. Puis, il se choisit des chemises, des sous-vêtements. Et s'habille. Puis, il retourne vers le corps. Il fait les poches. Il prend l'écran, les cartes, et les clés de l'appartement. Il met la carte sur l'écran et voit son nom. Denis Duval. Ça va. Ensuite, il prend le corps. Et va le mettre dans la sorte d'eau. Il le met dans la baignoire. Puis, il sort de l'appartement. Ferme bien la clé. Il sillonne la ville pour trouver un magasin de face et attrape. En trouve un, entre et achète une perruque et une moustache blonde. Il a payé le tout avec la carte de Denis. Puis, il revient à l'appartement. Il a oublié une chose importante. Il a oublié, c'est de prendre les empreintes de Denis. Il retourne à un sac d'eau. Et avec de la mie de pain, il en fait comme une pâte à meubler. Et il met la mie de pain ramollie comme une pâte à meubler sur le pouce de sa victime. Puis il met le moule dans une boîte en fer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire disparaître ce Denis. Parce que si on le trouve mort, la carte risque de le dénoncer. Donc, il faut qu'il le fasse disparaître. Mais comment? Il cherche, sort de la sorte d'eau. Et voit le placard pendri. Il ouvre et voit qu'il est assez profond. Il fera avec du placoparte, un faux mur. Alors, il se déshabille. Se remet ses vieux vêtements. Et sort.
Il sait qu'à Paris, il y a des tas de chantiers, le chantier Franc-Blanc. Alors, il sillonne la ville pour voir s'il n'y a pas un chantier de construction d'immeubles neufs. C'est la nuit, le chantier est grillagé, gardé par des chiens et des gardes. Il se rend vers l'entrée où il y a une cabane du garde. Il frappe à une porte de bois. Il ouvre un garde en tenue de garde. Il n'est pas bien grand, fort. Un moustache, il me demande. Qu'est-ce que c'est? Quand on lui dit, excusez-moi de vous déranger, mais pouvez-vous me donner un peu de placoparte? Juste 2 mètres
sur 1,50 m. Le garde lui dit, c'est interdit. François lui dit, je sais, mais l'on peut s'arranger, je vous payerai bien. Il sort sa carte et lui dit, vous pouvez m'en donner combien? Vous pouvez me donner avec des défauts. De toute façon, je vais le tapisser. Il me réfléchit, il demande. Vous pouvez m'en donner pour combien? François lui dit, une grosse somme. Garde lui dit, d'accord. Et il va chercher des morceaux de placo-pâte. François lui demande aussi un morceau de tapisserie et du ciment. Le paye, et comme c'est lourd, il appelle un taxi pour rentrer chez lui. Il entre chez lui. Personne ne l'a vu rentrer. Il pose ses affaires contre le sol à terre, à côté du placard. Puis, il va chercher le corps.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.
La CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous a présenté une cassette OB.